Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi.
Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes?
Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir.
Tu ne tueras point, l'histoire d'un jeune soldat qui devient infirmier pendant la Seconde Guerre mondiale pour ne pas avoir à porter d'armes pour des raisons religieuses. Un film de Mel Gibson inspiré de l'histoire de Desmond Doss qui participa à la terrible bataille d'Okinawa dans le Pacifique. Il sauva la vie de 75 de ses camarades et fut blessé 3 fois durant le conflit. Peut-on être médecin et militaire en même temps ? Ne me posez pas la question, ces deux états sont indissociables chez moi. Je suis médecin militaire, j'ai accompagné des soldats en opération à maintes reprises, j'ai vécu des situations de stress parfois intenses qui m'ont amené à me demander quel est le sens de mon engagement. Ainsi parle Nicolas Zeller, ancien médecin des forces spéciales. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Il y a quelques jours, je me suis plongé dans un livre passionnant. Il s'appelle « Corps et âme ». Il est signé Nicolas Zeller aux éditions Talendier. Il a notamment servi comme médecin dans les forces spéciales un peu partout sur le globe, une voie qu'il a suivie à peine le bac obtenu à 18 ans.
C'est un choix avec le niveau de maturité d'un jeune de 18 ans, donc c'est pas toujours des choix très réfléchis, en tout cas pour moi. Voilà, ça n'était pas forcément à ce moment-là de façon très certaine, j'étais pas encore complètement déterminé. En revanche, il y avait des choses, des petites graines qui avaient été plantées et qui me faisaient dire que c'était par là qu'il fallait aller, notamment un atavisme familial autour du service de mon pays et de l'État, avec dans mon entourage propre des militaires, mais pas que des militaires, des gens qui s'étaient investis aussi pour le service de notre pays et qui m'ont donné cet exemple-là. Donc ça correspondait déjà à cette première étape. Il y avait une deuxième étape autour du contact avec l'autre au sens général et du service de l'autre. Et puis après, une fois que ça répond à ces deux grandes questions, ben je me dis que il y a des gens autour de moi qui ont fait ce métier-là aussi, et notamment une personne qui m'a aussi donné cet exemple et qui me fait dire, tiens, si j'allais là-dedans. Voilà. C'est un peu comme ça. Voilà. Et puis, très vite, quand même, la réalité vous rattrape, le concours de première année de médecine. Dans ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis pas né en me disant, je veux être médecin militaire. Et au moment où je le confirme, heureusement que je le confirme parce que je suis déjà un peu avancé. Donc, j'aurais eu du mal à faire un virage à ce moment-là, surtout que c'était très cloisonné à l'époque, donc c'était pas possible.
Vous racontez dans Corps et âme plusieurs de vos missions en Afghanistan, en Afrique, en Guyane. En mission, quelle est la fonction du médecin dans un commando des forces spéciales ?
Elle est multiple, cette mission, il faut soigner des gens. Ça, c'est mon métier principal. Et nos soldats en mission, ils ont des problèmes de santé comme tout un chacun. C'est des jeunes actifs qui font du sport, qui font des activités physiques au travers de leur activité professionnelle. Donc, il y a une part d'activité de médecine générale qui est importante. Il y a une part d'activité de prévention aussi et d'éducation qui est importante puisqu'on vit dans des environnements qui sont parfois hostiles et sur lesquels il faut agir, en tout cas auprès des soldats, pour qu'ils puissent vivre le plus sainement possible dans ces environnements, à la fois en termes de fatigue, à la fois en termes de température de façon générale et puis d'humidité ou d'hostilité de l'environnement.
Dans votre livre, vous parlez de thermomètre moral du détachement aussi.
Oui, tout à fait, parce que le médecin, donc il est médecin généraliste, il s'occupe un peu de prévention, il s'occupe aussi d'activités techniques autour du montage, du soutien médical des opérations. Et puis, effectivement, comme il est un peu infiltré partout, il est effectivement un thermomètre de l'état moral de la troupe, plus que de son état psychologique en réalité.
En mission, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui vous distingue des autres soldats, des autres commandos. Est-ce qu'il y a une mission qui vous a marqué en particulier ?
Alors, mon métier spécifique me distingue des autres commandos. Et c'est vrai que dans cette masse de soldats qui sont à peu près tous habillés de la même façon, on peut avoir l'impression que pas grand-chose nous distingue. Et d'autant plus si les équipes sont toutes petites ou toutes ramassées, on pourrait penser qu'on ne se distingue pas. Mais le médecin est un élément très particulier de ces missions et il est propre et unique. Quand je dis unique, c'est pas le médecin, c'est le binôme entre le médecin, l'infirmier ou le personnel périmédical. Mais ces personnes-là, ce petit groupe à l'intérieur du groupe est une individualité.
Vous vous êtes fait vous tirer dessus, bombarder, mais le médecin, vous le dites, c'est aussi un soldat. Ça signifie que vous pouvez aussi être amené à répondre, à tirer et peut-être à ôter la vie d'un ennemi ?
Le médecin, c'est un soldat et c'est aussi un homme. Donc il faut conjuguer le médecin, le soldat et l'homme. Et ça, c'est pas toujours aisé. Le médecin, comme l'infirmier, il porte une arme. Cette arme, elle n'a pas une vocation à être utilisée de façon offensive. Elle a une vocation à être utilisée pour assurer ma propre sécurité si ma vie est menacée. Et elle a une vocation à assurer la sécurité de mes blessés et du matériel qui pourrait m'être nécessaire pour les prendre en charge. Ça, c'est des choses qui sont établies dans le droit des conflits armés, dans les conventions de Genève. Ce n'est pas une interdiction de porter une arme. Et en revanche, c'est une interdiction de vouloir en user de façon offensive. Ça, ce serait contre, quelque part, la nature propre de mon métier. Raison pour laquelle j'ai aucun problème à m'occuper d'un soldat étranger, d'un soldat ennemi, potentiellement, autant que d'un soldat de mon propre camp.
De nombreux coups de feu retentissent dans tout le quartier. L'armée burkinabé encercle le restaurant et multiplie les assauts. Vers 21h30, trois hommes descendent d'un 4x4 et commencent à tirer sur les clients assis en terrasse. La panique s'empare alors de ce quartier de Ouagadougou. Plusieurs personnes blessées sur le sol attendent les secours.
L'attentat de Ouagadougou en 2016, attribué au groupe terroriste ACMI, un événement qui vous a beaucoup marqué. Vous êtes intervenu pour assister les commandos chargés de sécuriser le périmètre et neutraliser les terroristes. On lit aussi dans votre livre des interventions dans l'urgence au milieu de nulle part, avec parfois bien peu de matériel, à l'ancienne, un peu comme les médecins de 14-18.
Oui, alors faut savoir raison garder dans la comparaison, compte tenu de l'horreur de ce qu'ils ont pu traverser. Voilà, effectivement, peu de moyens peut-être, mais surtout une immensité du champ de bataille et un nombre incalculable de blessés, ce qui n'est pas véritablement les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver par le passé. En revanche, ouais, il y a un état d'esprit particulier pour faire de la médecine d'urgence dans des conditions très dégradées. Il faut être assez humble avec ça. À la fin, la vie tient qu'à un fil parfois, et il faut l'accepter et surtout développer une espèce d'agilité intellectuelle et technique qui permette de dépasser ces blocages-là qui peuvent être des blocages logistiques ou des blocages techniques. Mais c'est un beau métier et je crois qu'il y a vraiment énormément de soutien à apporter à ceux qui finalement nous défendent collectivement la France.
Ouais, justement, on voit que pour les Européens, la guerre est en train de changer de visage, comme le montre le conflit en Ukraine. De nombreux blessés, des amputations chez les civils mais aussi les militaires. C'est quelque chose auquel la plupart des médecins ne sont pas préparés ?
Si, on se prépare à ces situations-là, on s'y prépare techniquement, au plan médical, on s'entraîne à travailler dans des conditions dégradées, on s'entraîne à travailler dans des conditions dans lesquelles les flux et les afflux potentiels de blessés seraient importants. On développe des procédures qui permettent de mettre en place des systèmes qui permettent d'absorber ces flux-là. C'est toute une manœuvre à l'intérieur de la bataille qu'il faut planifier au préalable pour pouvoir la conduire du mieux possible. Donc on s'y entraîne quand même beaucoup, et puis on s'y entraîne aussi au plan militaire pour pouvoir justement développer des systèmes qui puissent être agiles, qui puissent être mobiles sur le champ de bataille, qui puissent être le moins vulnérables possible, parce qu'effectivement, cette logistique médicale qui est lourde, à la fin, c'est potentiellement aussi une difficulté en elle-même dans la manœuvre logistique d'une armée qui est au combat.
Sixième et dernier, et qu'est-ce qu'il a ?
Fracture fermée de mouvement inférieur.
Malgré les cris et le sang, l'organisation de la prise en charge des victimes par les équipes médicales est rodée. Chacun sait ce qu'il doit faire.
A priori, une hémorragie non contrôlée des deux membres inférieurs et qui a un trouble de conscience, mais on n'a pas terminé le marche.
L'accueil de 6 blessés graves au Sahel, un reportage du journal de la Défense. J'ai lu récemment un article qui racontait que les blessures observées en Ukraine ou à Gaza ressemblaient à celles que les médecins ont eu à traiter lors de la guerre 14-18. C'est aussi ce qui m'a donné envie de monter un podcast sur ce thème. C'est aussi ce que vous ont dit vos confrères.
Les blessures de guerre, elles ont pas énormément, enfin elles ont évolué, mais elles ont évolué surtout dans l'impact qu'elles ont sur l'être humain, mais c'est toujours du grand traumatisme, du polytraumatisme de guerre. Donc on va retrouver à peu près les mêmes variables, que ce soit en 14-18 ou aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va retrouver des agents vulnérants, extrêmement violents, on va retrouver des brûlures, on va retrouver des polytraumatismes des membres, on va retrouver du polytraumatisme abdominal, on va retrouver ces choses-là. C'est surtout la façon de traiter et de gérer une quantité variable de blessés qui fait que les conséquences de ces blessures peuvent avoir un impact plus ou moins fort sur celui qui la reçoit déjà, sur les équipes qui prennent en charge et puis sur la société en elle-même.
Alors, Corps et âme, c'est pas seulement une biographie, un recueil de missions, c'est aussi un livre de réflexion sur le métier de soldat, sur le rapport au corps, sur l'engagement. C'est aussi presque un livre philosophique sur la vie, la mort, la foi. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'en faire un livre par effet cathartique, j'ai envie de dire ?
Non, pas forcément. Je pense que c'est arrivé une étape de ma vie où je quittais ce monde opérationnel, où je voyais arriver des jeunes médecins dans ce type d'unité et où je me disais, voilà, tiens, qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Et puis je voyais arriver aussi des jeunes soldats qui continuaient à s'engager dans ces unités avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de motivation. Et pareil, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire et de, finalement, de témoigner de ce passage? Donc ça n'avait pas forcément une vocation cathartique. En revanche, l'objectif, c'était vraiment d'aller dans la réflexion un peu intellectuelle sur l'engagement, sur le sens du service, sur la relation qu'on peut avoir avec la mort et la violence. Et en ça, si j'étais resté que sur cet aspect purement, vous dites philosophique, mais si j'étais resté sur cet aspect purement analytique, je serais probablement passé à côté de l'exercice, raison pour laquelle j'ai trouvé assez intéressant de mettre de la chair autour de cette réflexion. Et ça passe par le témoignage de ce que moi j'ai pu traverser et s'appuyer sur ces expériences, retourner les chercher, essayer de les décortiquer, trouver la bonne pour supporter l'idée que je voulais développer. Ça, c'était un exercice plutôt intéressant.
Vous rendez hommage dans Corps et âme à vos anciens compagnons blessés ou mutilés et vous vous interrogez sur la place du soldat, notamment celui rentré blessé, un soldat que la société a du mal à honorer, un soldat, dites-vous, que certains considèrent comme normal, voire inutile. C'est un constat amer.
Oui, c'est un constat amer. Alors, c'est aussi un constat qui a plus de 2 ans maintenant, mais qu'on pourrait relire aujourd'hui de façon un peu critique, peut-être. Ce qui se passe en Europe de l'Est interroge la place de l'armée dans une société, interroge la place d'une société dans la défense de sa propre vie et de la propre structure de son pays. Donc je pense qu'on pourrait réinterroger ce constat qui est un peu effectivement amer en 2020-2021. Mais pour autant, aujourd'hui, en France, on n'a pas encore repris contact avec ce lien très fort entre une armée et son pays. Et heureusement, en réalité, ça veut dire que quelque part, on vit dans un monde de paix. Mais soyons lucides sur effectivement l'environnement dans lequel on vit et qui pourrait amener une société à positionner son armée dans une place un peu différente dans son cœur. Et en ça, le soldat, il a besoin de se sentir investi de cette mission qui est une mission dans laquelle il y va pas pour lui, il y va pour d'autres. Et donc, la place qu'il a dans une société, pour sa motivation, pour la légitimité de son action, pour la puissance qu'il va pouvoir y mettre, il a besoin de cet élan et il a besoin de ce support en réalité.
C'est ce qui explique d'ailleurs la formidable résistance des Ukrainiens aujourd'hui face aux Russes.
Alors pour avoir vu, moi alors je connais pas le théâtre ukrainien, mais pour avoir vu notamment au Moyen-Orient des gens défendre leur terre physique, leur territoire, le bout de caillou, effectivement, là on passe au-delà du soldat, on passe au niveau de l'homme qui défend sa patrie, la terre de ses pères, etc., tel qu'on peut l'entendre en termes sémantiques. Et ça, c'est assez impressionnant à voir, parce qu'en réalité, ces gens-là n'ont absolument pas le goût du sang dans la bouche, Ils sont pas là à développer une part de violence inouïe pour le simple plaisir de la développer. Ils se battent pour la survie de leur culture, de leur société, de leur terre et de leur famille, in fine. Et ça, c'est impressionnant à voir.
Le générique d'une série américaine bien connue, diffusée dans les années 70, inspirée d'un film de Robert Altman, je veux bien sûr parler de MASH, le quotidien d'un hôpital de campagne de l'armée américaine. Alors, les auditeurs le voient pas, mais moi je vous vois sourire, des chirurgiens rebelles, coureurs de jupons, mais ultra compétents, c'est du cinéma, c'est très loin de votre quotidien, j'imagine.
Ouais, très loin, et pour autant, ça fait partie des films qu'on a beaucoup regardés quand on était étudiant. Que j'ai dans ma vidéothèque et que, si le mot n'est pas trop désuet, mais que moi je trouve un bon film. Alors, ça se replace dans un contexte, guerre de Corée, dans cet environnement médical, qu'il soit chirurgical, je prends l'ensemble du corps médical, notre niveau d'exposition à la souffrance de l'homme crée ce petit décalage qui est symbolisé par effectivement ces coureurs de jupons, de chirurgiens, et qui est un peu décalé par rapport à aujourd'hui, mais crée ce décalage qu'on appelle, nous, un peu l'humour carabin, qu'on garde un peu entre nous, et qui est aussi pour nous une façon d'absorber quelque part cette souffrance des autres qu'on a concrètement dans les mains. Et il n'y a rien de véritablement décalé. C'est la réalité, c'est aussi une façon de se protéger, c'est aussi une façon de créer quelque chose de plus convivial autour de quelque chose qui est quand même fondamentalement difficile et douloureux.
Merci Nicolas Zeller, auteur de Corps et âme aux éditions Talendier. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver La Story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.